Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI comme chaque vendredi. Et comme chaque vendredi, vous pouvez nous suivre à la radio et aussi en Facebook Live. Vous pouvez nous voir dans ce studio. Vous pouvez voir aussi les personnes qui participeront à cette émission aujourd'hui. Alors notre duo de choc qui est toujours là au rendez-vous. Merci d'être là, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs.
Oui, bonjour Annie. Je pensais qu'on ferait une émission sérieuse, mais Rémi Ngono est arrivé.
Ah oui, vous savez, moi je n'étais pas parti en Russie comme lui. Ouais. Il vient de Russie. Ouais. Oh, c'est ce qui se passe là-bas.
Il y a 15 jours déjà.
Il se promène beaucoup, Xavier Barré.
Vous avez menti aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Foot.
J'ai pas menti, j'ai même mis des images de ma virée à Saint-Pétersbourg sur les réseaux sociaux.
On ne joue pas au foot là-bas.
Bah si, j'ai vu un très beau match Belgique-Russie. Et il y aura les matchs de l'Euro dont le tirage au sort est demain.
Le Jefe est là aussi. Bonjour Alejandro.
Bonjour
Valente.
Bonjour à tous.
Et puis deux invités que vous allez comprendre bientôt pourquoi on les a invités aujourd'hui dans Radio Foot International. Alors Jimmy Adjovi-Boko, je crois que beaucoup de nos auditeurs le connaissent déjà et nos spectateurs aussi sans doute. Bonjour Jimmy.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Merci d'être là, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, ancien joueur, défenseur du RC Lens, ancien joueur aussi de l'équipe nationale du Bénin et puis un des associés du projet Diambar et tant d'autres projets désormais. Et puis Djibril Diallo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans Radio Foot. Alors on expliquera tout à l'heure pourquoi vous êtes là. Vous êtes sénégalais et vous êtes partenaire en fait avec la FIFA et sur des projets plutôt sociaux dont on parlera. Mais on parlera aussi dans Radio Foot International de Gianni Infantino à la manœuvre en Afrique. Le tout puissant président de la FIFA a proposé au cours de son actuelle tournée sur le continent la création d'une ligue africaine qui réunirait les 20 meilleurs clubs africains. La FIFA d'Infantino veut porter le football africain au sommet du monde. Un Black Friday pour Unai Emery, le coach des Gunners qui avait succédé à l'historique Arsène Wenger sur le banc, vient d'être licencié par les dirigeants d'Arsenal au bout de 18 mois après son arrivée à Londres. La défaite face à Francfort en Ligue Europa referme la mauvaise passe de l'équipe des Gunners. Qui pour lui succéder ? Et puis avec nos deux invités, nous évoquerons donc le projet Red Card, mais on va vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Radio Foot, les débats du Café des Sports sont ouverts.
Carton rouge, propre.
C'est Castellino Rosso.
Carton rouge.
And the red.
Et oui, Red Card, c'est aussi carton rouge, n'est-ce pas? C'est en tout cas le symbole de cette campagne qu'on peut voir ici sur les écrans pour ceux qui nous suivent en Facebook Live. C'est un projet et j'aimerais savoir, Djibril Diallo, que vous nous expliquiez en quoi consiste ce projet puisque vous êtes partenaire avec la FIFA. En fait, alors le point d'orgue de tout ce projet qui est lancé actuellement se terminera au moment de la journée internationale de la femme, début mars. Mais en fait, ça a déjà été évoqué au moment de la Coupe du Monde féminine en France. Et c'est un projet, en fait, pour lutter contre les violences dont sont victimes les femmes et donc les footballeuses.
Nous utilisons la capacité de mobilisation du football pour nous aider dans une question qui est préoccupante en ce moment. Parce qu'au football, lorsque l'on donne le carton rouge, on sort le joueur du terrain.
Ouais.
Et de ce fait...
Ou des entraîneurs, des fois, aussi.
Oui, ou des entraîneurs, parfois. L'idée, c'est que nous travaillions en tant que communauté internationale pour donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les filles. La France est la terre où nous avons eu l'adoption de la Déclaration universelle du droit de la personne. Et de ce fait, nous sommes venus ici pour qu'il y ait une sorte de soft launch ici pendant la Coupe du Monde féminine et allant maintenant vers la Coupe du Monde de football en 2022. D'ici là, nous espérons recueillir au minimum 1 million de signatures qui vont montrer le fait que la communauté internationale a dit qu'il faut qu'il y ait tolérance zéro par rapport à ce phénomène.
Jimmy Adjovi-Boko, c'est un projet qui a besoin de la FIFA. Pourquoi ?
Bah parce que le football, on connaît la puissance de ce sport, mobilisatrice. Le football est le sport le plus populaire. Donc on pense en entrant par le football, on pense pouvoir toucher un maximum de gens, justement pour atteindre cet objectif d'éradiquer toute violence faite aux femmes et aux filles.
Est-ce que dans le milieu du sport, et notamment le milieu du football, où il y a de plus en plus de femmes, des femmes arbitres, des femmes joueuses, des Coupes du Monde maintenant féminines, est-ce qu'il y a une certaine discrimination et voire violence contre des femmes, peut-être plus qu'ailleurs, peut-être qu'elles sont plus exposées?
Discrimination, certainement.
Oui,
On voit déjà la différence de traitement salarial. Si on parle de violence sur les terrains, il y a quand même beaucoup moins de violence sur les matchs de football féminin que sur les matchs de football masculin. Encore une fois, c'est vraiment le fait que le football soit le sport le plus populaire et qui nous permette. Je parle souvent de ça. Je dis quand on met un carton jaune, on peut rester sur le terrain. Dans le cas des violences, il faut que ce soit un carton rouge direct. Et c'est vrai que depuis des années, on laisse passer un certain nombre de choses et il faut éradiquer ce fléau qui est que sont les violences faites aux femmes.
Oui. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez pour mener cette bataille des projets concrets ou est-ce que vous attendez cela des gens qui vous soutiennent? Parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales qui soutiennent cette campagne au-delà de la FIFA, les Nations Unies et d'autres organismes.
Bien sûr. Ce projet est dans le cadre des efforts pour populariser les objectifs de développement durable. Maintenant, pour vos auditeurs, développement durable, ça voudrait dire ce qu'on appelle en anglais alphabet soup. Ça n'a pas toujours un sens en tant que tel. Mais lorsque l'on dit qu'il faut diminuer le nombre de personnes qui se couchent chaque soir sans avoir de quoi manger, promouvoir l'éducation, et dans ce cadre, nous utilisons donc la lutte contre ces violences comme point d'entrée pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, pour promouvoir la vitalité de la jeunesse et d'autres éléments de ce genre. Donc, il s'agit de fédérer les efforts du système des Nations Unies, fédérer les efforts de la FIFA et aussi du Conseil présidentiel pour l'Afrique en France et d'autres éléments qui parviennent à pousser cette conjonction et qui permettraient d'avoir aussi, d'identifier dans chaque pays des projets qui sont des îlots d'espoir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner des chiffres alarmants, il faut aussi trouver des solutions. Il y a des solutions qui sont sur place. Ce qui manque, c'est d'avoir l'occasion dans des émissions comme celle-ci pour en parler et pour que la communauté internationale soit au courant de cela.
Un exemple de projet qui, selon vous, Jimmy, fonctionne déjà ou qui pourrait être internationalisé?
Déjà, il y a eu au moment du G7, c'est pour ça que la France est intéressante et une terre intéressante, c'est qu'au niveau du G7, il y a eu tout un tas de prédispositions, de choses mises en place qui s'adressent aux différents pays. Mais on a là, depuis quelques mois, la mise en place du Grenelle, ce qui fait de la France un pays, je dirais, leader dans ce combat contre les violences.
Violences aux femmes.
Voilà, donc...
un programme, par exemple, dans le sport, qui aiderait justement à combattre ce genre d'attitude.
C'est justement tous les... j'en ai pas là en tête, mais ça va être notre rôle, c'est justement de fédérer. Là, pour le moment, notre première étape, c'est de faire connaître ce plaidoyer, et d'attirer vers nous tous ceux qui ont des projets intéressants qui nous permettront justement d'éradiquer, parce que c'est pas nous avec nos petites mains qu'allons le faire, mais il y a énormément de choses qui se font sur le terrain et il serait intéressant de les remonter de manière à les vulgariser.
L'Afrique particulièrement?
L'Afrique, pas plus qu'ailleurs, mais l'Afrique, on a les problèmes d'excision, on a les problèmes de mariage avant l'âge de 18 ans, les mariages forcés. Donc on a sur le continent africain des combats à mener justement pour que les femmes et les filles aient les mêmes droits et les mêmes devoirs aussi que les hommes.
Cette semaine, on a reçu dans Radio Foot International la joueuse internationale camerounaise, Rémi Ajara Nchout, qui nous a raconté notamment comment elle était issue d'une famille musulmane et comment elle pensait qu'elle aurait pu être peut-être promise au mariage assez tôt et qu'à son âge, elle a 23 ans, je crois, elle serait déjà mariée et en fait, sa famille l'a laissée pratiquer le sport et elle se sentait justement assez forte et devenue indépendante grâce au football, grâce à la pratique du sport.
Le sport est un vrai moyen d'émancipation pour les femmes et il faut qu'on le prenne comme tel. Et encore une fois, le football, on sait ce que représente le football sur notre continent et sur notre continent et dans le monde. On a derrière nous, enfin avec nous, des joueurs comme Habib Bey ou Idrissa Ganagé ou Didier Drogba. Enfin voilà, on a des joueurs qui vont suivre cette campagne et qui vont nous permettre justement d'atteindre nos objectifs.
Vous êtes donc ouvert, non seulement aux signatures, on a vu sur le site, il y a un site où on peut être solidaire donc de cette campagne et signer, mais vous êtes aussi demandeur de projets en devenir ou qui existent déjà?
Oui, nous allons faire le lancement mondial le vendredi 6 mars. 6 mars, c'est avant la journée internationale de la femme. Nous allons avoir à New York des délégations de femmes venant du monde entier pour voir le statut de la femme. C'est un événement annuel et ce sera à cette occasion qu'il y aura un lancement mondial qui permettra d'attirer l'attention sur ces questions, mais aussi d'aller vers la Coupe du Monde de football de la FIFA, Qatar 2022. Donc avant cela, je pense que vos auditeurs, chacun, chacune, peut aller en ligne sur le site de la RDN et signer son engagement, parce que tout commence par la signature de l'engagement, ensuite les actions concrètes
faire
suivent.
Faire des propositions.
Voilà.
Alejandro ?
Oui, je voulais signaler que parmi tous les messages qui nous arrivent, il y en a un en particulier pour Jimmy, qui nous arrive de Calavi au Bénin. Tobias Lokonon, qui vous souhaite bon courage dans ce nouveau projet.
Merci beaucoup et bonjour à mon pays.
Rémi, vous en parlerez sur la page Rémi Ngono officielle ?
Je vais en parler, j'en parle régulièrement, sauf que, bien évidemment, il est très, parfois difficile de défendre les personnes qui ne sont pas là, parce que quand je vois quand même deux grands messieurs en train de parler des femmes comme s'il n'y en avait pas. Donc du coup, déjà, je vois que c'est une autre violence faite aux femmes qui devraient elles-mêmes aussi être présentes pour témoigner, pour parler, parce qu'elles savent mieux encore les souffrances qu'elles peuvent avoir, particulièrement en Afrique où on est en train de parler. Moi, je connais par exemple ma mère, et qui, bien évidemment, pouvait bien aller au champ à telle ou telle période pendant que papa était là en train de boire son vin. Et puis, c'est elle qui vient préparer. Après, il s'en va à tel ou tel endroit. Et beaucoup d'autres femmes savent que si jamais le repas n'est pas prêt, allez, pam, c'est parti avec des gifles et tout et tout et tout. Donc, les violences aux femmes sont réelles en Afrique et sont encore beaucoup plus consistantes. Sauf que, je le dis encore, que, bien évidemment, il faudrait, la première violence que les hommes devraient se faire, c'est que, quand ils veulent parler des femmes, que les femmes soient majoritaires, et non que le coq parle toujours à la place de la poule. Parce que, bien évidemment, il y a un proverbe africain qui dit que le renard ne défend pas, le renard n'est pas l'avocat défenseur de la poule.
Voilà, vous viendrez avec des femmes la prochaine fois, Jimmy et Djibril.
Oui, mais la majorité des membres de ce réseau sont justement des femmes. Mais ce qui n'existe pas, c'est qu'on commet l'erreur très souvent de penser que la question de la violence des femmes est une question exclusive aux femmes. Je pense qu'il faudra que les hommes soient engagés. Et nous avons des programmes d'éducation, par exemple en Afrique du Sud, qui ciblent spécifiquement les garçons. Parce que le gros des problèmes, c'est évidemment de mettre en avant les femmes, mais en même temps que l'on ne soit pas dans un box où c'est un ghetto. Il faut laisser aux femmes, on parle de violence aux femmes, donc il faut laisser aux femmes. Ouais, donc là, l'originalité, c'est que d'abord, l'Afrique se lève, les Africains se lèvent, ils disent que c'est un problème auquel l'Afrique devrait faire face. Ce n'est pas un problème où il faut seulement que les Européens ou les autres fassent l'intervention, mais aussi qu'il y ait aussi des hommes qui soient à côté des femmes leaders qui puissent aller de l'avant.
Bah, je pense qu'effectivement, le discours de M. Djibril Diallo est beaucoup plus responsable et universaliste que la saillie de Rémi Ngono. Parce qu'effectivement, effectivement, la réaction qu'on a, oui, c'est encore des histoires de bonnes femmes, on dit. Alors que là, ça vient d'un sage, d'un grand frère, et il y aura beaucoup plus d'impact quand ça vient effectivement d'un sage ou d'un grand frère que quand on auprès des hommes, et notamment des jeunes hommes, que si ça vient d'une femme.
Ce qui signifie que, encore une fois de plus, c'est un discours misogyne. Savoir que le discours de la femme n'est pas porteur.
Le discours,
discours d'un homme, c'est un sage qui parle, c'est plus haut. Vous voyez jusqu'où, justement.
Tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté ce que disait Djibril. Tu n'as pas écouté ce qu'il disait.
Je veux dire une chose.
Il disait que, justement, c'est la vie ensemble. C'est pas les femmes contre les hommes, c'est la vie ensemble.
Xavier, la démocratie, c'est quoi? C'est comme dans un parlement, c'est-à-dire un député. Représente d'abord une certaine population, une certaine couche de la population.
Il représente sa circonscription, si prenez, c'est pas pareil.
Je vous ai dit.
Non, un député représente sa circonscription.
Si vous prenez la population,
il représente sa circonscription.
Ça dépend des pays, Xavier.
Alors là, bravo pour vous. Vous allez dire, cette panthère est très sage, elle représente les moutons.
Mais non.
En tout cas, nous y reviendrons. Nous y reviendrons sur RFI. Vous nous tiendrez au courant des projets, Jimmy et Djibril, j'espère en tout cas, que vous nous parlerez des projets une fois qu'il y aura des choses plus concrètes en ce qui concerne donc cette campagne Red Card. Et on verra donc, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup Djibril Diallo et Jimmy, mais restez avec nous parce que là, on va partir directement sur les terrains de football, vous connaissez. Le président de la FIFA en tournée sur le continent africain, Gianni Infantino, avait commencé sa tournée en début de semaine par l'île de Madagascar, chère au président malgache de la CAF, le président Hamad, puis il est passé par le Mozambique, les deux Congos aussi, en s'arrêtant notamment à Lubumbashi pour les 80 ans du TP Mazembe. Et c'est justement là, avant de partir vers l'Angola, qu'il a fait une déclaration où il a proposé à Alejandro Valente, et vous allez nous éclairer un peu, la création d'une ligue africaine qui regrouperait les 20 meilleurs clubs africains. En quoi consiste exactement ce projet? Alors d'abord, c'est une proposition lancée par Gianni Infantino, mais n'oublions pas que la CAF est sous tutelle de sa secrétaire générale, qui est la sénégalaise Fatma Samoura.
Voilà, on ne connaît pas les détails de ce projet, mais par contre, on ne peut pas dire que ce soit un projet qui tombe du ciel. La FIFA, depuis plusieurs semaines, a pris des initiatives qui préparer peut-être un petit peu le terrain, notamment en annonçant une Coupe du Monde de clubs, nouvelle formule, élargie à 24 équipes, qui se tiendra tous les 4 ans. D'ailleurs, ça pose des problèmes à l'organisation de la CAN 2021 qui devra être déplacée. Puis, le 15 novembre dernier, on a annoncé à Zurich la création d'une association mondiale des clubs, qui est présidée par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et qui a comme vice-président, justement, Moïse Katumbi, le patron du TP Mazembe. Donc, on voit bien que le projet d'Infantino est de créer les conditions dans les différents continents, d'avoir des compétitions de clubs suffisamment performantes pour pouvoir être comparables ou tenir en tout cas une certaine comparaison avec les compétitions européennes qu'il essaye de mettre donc face à face avec ce qu'est la Coupe Libertadores en Amérique du Sud ou une compétition de clubs en Afrique.
Mais il y a déjà une Ligue des Champions.
Il y a la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a la Coupe de la Confédération, mais on sait bien que ces compétitions n'ont pas l'écho médiatique qu'on pourrait espérer d'elles. Donc là, il parle d'une compétition qui pourrait générer 200 millions de dollars par saison.
Il parle de compétition et d'argent. Ça
pour lui, c'est lié parce qu'avec l'argent, on pourrait avoir des clubs plus performants, capables de retenir certains des grands joueurs africains et au lieu de les voir partir très jeunes en Europe.
Sauf que l'Europe essaye de freiner ce projet de ligue fermée, de ligue en européenne. Rémi, est-ce que ça vous paraît adapté au continent africain, ce projet, dans le sens où peut-être qu'il faut commencer par mettre une ligue fermée de 20 grands clubs qui après provoquerait peut-être une dynamique?
Je crois que le président de la FIFA est un rêveur, voire un rêvasseur, doublé d'un démagogue. Parce que la première des choses qu'il avait proposées lorsqu'il voulait se faire élire, c'était d'envoyer Moussa Ngomba au niveau de l'Afrique. C'était pendant pour aller rencontrer les Africains et leur dire, voilà, je vous propose que chaque fédération aura 5 millions d'euros de football.
plus 1 million pour les billets d'avion. On n'en parle plus. Subitement, lui qui est président de la FIFA et qui maintenant prend les fonctions de président de la Confédération africaine de football, saute donc, parce que je ne sais pas s'ils peuvent proposer cela en Europe. Je ne sais pas s'il peut jouer un tel rôle en Europe, parce que tout le monde
pas
va s'élever.
Pas encore, peut-être.
Il ne peut pas le faire.
En Europe, il y a des compétitions qui marchent.
Mais je vais vous dire une chose. Quand il parle d'une ligue à 20, le premier, là où il va, il était où? Il était
à Lubumbashi.
C'est-à-dire que le plus grand club de là-bas, c'est quoi? C'est le tout-puissant Mazembe qui essaie de se professionnaliser. C'est une idée d'un individu, d'une personne. C'est à peu près comme on vous dit que, par exemple...
Non, mais il y en a d'autres en Afrique qui sont des clubs professionnalisés, Rémi.
Mais là-bas, je vais vous dire, c'est juste le tout-puissant Mazembe avec, en tout et pour tout, un stade de 18 500 places.
Ils vont en faire un nouveau.
C'est en tout et pour tout. Maintenant, vous allez me dire que les grands clubs africains, vous allez les trouver où et comment est-ce que ça va se jouer dans la mesure où vous allez, par exemple, actuellement au Sénégal, première nation du football, il n'y a pas un seul stade. Vous allez dans
aux normes FIFA et aux normes internationales.
Il a parlé de réunir un milliard de dollars pour construire des stades aux normes FIFA dans les différents pays.
Il a dit, avant de lancer quelque chose, c'est à peu près comme si on dit, vous voulez avoir des moutons, mais il y a un proverbe africain qui dit qu'avant d'avoir des moutons, il faut avoir l'enclos. Donc aujourd'hui, on n'a même pas d'enclos et on veut lancer une compétition sur des champs de patates. Et on dit, ça va permettre aux joueurs africains de ne pas partir. Mais attendez, même au Brésil, on sait très bien que les Neymar sont arrivés très tôt. Messi est parti d'Argentine. À quel âge?
Oui,
donc subitement, il dit que non, ça va permettre aux gens en pleine mondialisation de maintenir des joueurs dans un continent africain, qu'ils ne se moquent pas des Africains. Moi, je crois que le problème aujourd'hui en Afrique, ce sont les dirigeants africains eux-mêmes. Parce que c'est tout à fait inadmissible que un continent de 30 millions 300 000 kilomètres carrés, un continent de 54 fédérations, et que on soit, alors qu'on a les plus grandes ressources, les plus grandes richesses, qu'on soit incapable d'organiser un championnat, incapable d'avoir des stades, incapable de pouvoir avoir des écoles de football. Ce n'est pas Infantino qui peut venir faire cela. Laissez-nous ça.
C'est pas tout Xavier. À fait vrai, puisque justement on est à cette table. Jimmy Adjovi-Boko qui a lancé le Diambars, qui est une école de football formidable au Sénégal. Il y a aussi Génération Foot, ça en fait déjà au moins deux qui sont performants au Sénégal. Il y a d'autres pays où ça marche aussi. Mais je pense que le problème, et là je suis d'accord avec Rémi, c'est que sur les 54 fédérations, il y en a combien qui ont un championnat régulier bien organisé?
Le Gabon vient encore de reporter le début du sien. Donc,
la moitié au grand
maximum. Il y a beaucoup de problèmes partout.
Donc effectivement, si sur la base actuelle, les compétitions interclubs organisées par la Confédération africaine s'appuient sur des clubs qui sont élus, qualifiés à l'issue de championnats qui, la moitié du temps, sont reportés, mal organisés, désorganisés. Là, la FIFA propose de passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire d'organiser un espèce de championnat africain sur la base des clubs qui ont actuellement ces structures. Donc, de chinter quelque part les championnats nationaux actuels, ou en tout cas, ceux qui ne
qualifient pas. Mais c'est ça aussi, ça va détruire les quelques championnats qui existent.
Alors, ça peut fragiliser ceux qui existent, mais ça va pas détruire ceux qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Et ça va créer une élite. Alors effectivement, il y a quelque chose d'injuste dans cette démarche. Je rejoins un peu Rémy Ngono sur certains points. Il y a quelque chose d'injuste, mais est-ce que ce n'est pas pour faire progresser le football africain dans son ensemble? À partir du moment où vous avez un championnat continental, où vous aurez le Ali du Caire, l'Espérance de Tunis, le WAC et le Wydad, vous aurez peut-être Génération Foot ou le Diambars avec un club professionnel qui représentera le Sénégal, la Chanti Kotoko, le Canon Diaoundé ou un autre du Cameroun, des clubs d'Afrique du Sud, vous aurez une vingtaine de clubs comme ça, et bien sûr le TP Mazembe, vous aurez des vrais locomotives.
Mais à l'échelle africaine.
À l'échelle africaine, on est d'accord. Mais vous aurez déjà, à ce moment-là, les gamins qui grandiront dans ces pays, ils rêveront pas d'aller à Chelsea tout de suite, à Arsenal, au Paris Saint-Germain ou à la Juventus. Ils se diront, bah tiens, moi je vais d'abord aller au TP Mazembe ou au Diambars parce que je vais jouer une Coupe d'Afrique et ensuite j'irai au Barça. Mais ils auront la possibilité d'avoir une étape intermédiaire qui n'existe pas vraiment actuellement.
Jimmy, vous qui êtes un des acteurs donc, du football africain, alors on parle de Diambars, mais il y a aussi vos projets et les projets au Bénin, notamment, on en avait déjà parlé dans Radio Foot. Comment vous voyez ce genre de proposition, justement? Est-ce que c'est trop élitiste?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'on doit d'abord passer par la structuration de nos fédérations, la structuration de nos compétitions, la formation de nos cadres, la formation de nos jeunes.
Il y a tout un travail. La professionnalisation des fédérations.
Ça passe par là. Et je pense que là, on passe directement à une étape qui, à mon avis, saute le principal, qui est la structuration de l'ensemble de nos championnats. Je suis persuadé que cette compétition ne poussera pas nos fédérations à former les jeunes, à former les cadres, à former les cadres administratifs, à construire des stades. Parce que si on construit un seul stade, ça suffira pas pour développer nos championnats. Il faut qu'on...
En plus, 20 équipes, ça veut dire même pas une par pays. Ça veut dire que la moitié des pays africains sont exclus.
Donc pour moi, je crois pas... Enfin, bon, il faut voir ce qu'il y a derrière. Oui. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'on a vraiment besoin de... S'il y a un milliard à mettre, il y a un milliard à mettre sur la structuration de nos championnats, et demander et imposer que nos dirigeants fassent le job.
Et soient contrôlés.
Après, regardez ce qui s'est passé en Europe, notamment pour l'Europe de l'Est. Je pense que c'est un peu l'exemple dont s'inspire Infantino, qui était à l'UEFA avant, il faut le rappeler, avant d'être président de la FIFA. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, bon, il y a 30 ans maintenant, il y a plein de pays, des anciens pays communistes, qui se sont retrouvés totalement déstructurés, puisque le système dans les pays communistes, on s'appuyait sur les institutions communistes pour faire vivre le sport. Donc, ils se sont retrouvés sans rien. Et qu'est-ce qu'a créé l'UEFA à l'époque? Ils ont créé le Bureau pour l'aide à l'Europe de l'Est. Et donc, au lieu de financer, entre guillemets, d'essayer de financer le football par la base dans ces fédérations, ils sont venus le saupoudrer par au-dessus. Alors, il y a des choses qui fonctionnent pas bien, je suis d'accord. Mais à l'arrivée, vous avez quand même des clubs d'Europe de l'Est qui participent à la Ligue des Champions chaque année. Et qui sont, alors, pas toujours compétitifs, mais qui sont présents. Et donc, dans ces pays, vous avez, alors, encore une fois, je suis d'accord sur le fait qu'on sacrifie d'une certaine manière les championnats nationaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le championnat à la limite, le championnat d'Ukraine, ça vaut pas grand chose. Il y a deux clubs, le Dynamo de Kiev et le Shakhtar Donetsk. Mais quand ils sont en Coupe d'Europe, le Dynamo de Kiev et le Shakhtar Donetsk, c'est des clubs qui ont de la qualité, qui se qualifient, qui peuvent aller jusqu'en finale. Eh bien, l'Ukraine est championne du monde des moins de 20 ans. L'Ukraine est championne du monde des moins de 20 ans, en s'appuyant sur deux locomotives qui tirent le football ukrainien vers le haut. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Je n'ai pas la vérité absolue, mais...
Dans tout projet, il faut plutôt regarder les verres à moitié pleins plutôt que les verres à moitié vides. C'est vrai que dans ce projet évoqué par Infantino, il y a beaucoup d'inconnus qu'on ne comprend pas forcément.
Beaucoup d'argent
promis
aussi.
Mais quelle est aujourd'hui la réalité du football des clubs? C'est un football archi-dominé par les grands clubs d'Europe de l'Ouest qui attirent l'argent, qui attirent les stars, qui dominent totalement le paysage. Donc, il me semble légitime de chercher des formules qui permettent d'équilibrer un petit peu tout ça en créant des structures dans les autres continents qui permettent quand même d'aller vers le haut, de pousser un petit peu vers le haut. C'est pas simple, mais par exemple, aujourd'hui, cette Association mondiale des clubs, si elle marche, pourrait peut-être aider à faire des propositions, à mieux organiser les calendriers, alors qu'aujourd'hui, au niveau des clubs, on n'a que l'Association des clubs européens qui pousse de plus en plus vers une Ligue des champions élitiste, fermée et très riche. Donc, je pense que la FIFA est dans son rôle en essayant de proposer autre chose.
Ce que je ne comprends pas, c'est que justement, vous pouvez me parler de l'Ukraine, de machin, tout ça, mais c'est pas ça l'Afrique. De ce quoi je veux dire que avant, quand on parlait du football africain, il y avait déjà des grands championnats. N'oubliez pas que les Joseph Antoine Bell jouait des grands championnats avec les Roger Milla, avec des stades et tout, mais tout s'est dégradé. Et maintenant, il y a une autre forme de réorganisation au niveau de la Confédération africaine de football qui a voulu un peu mettre du marketing au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est Infantino qui est en train de venir tuer ça. Parce qu'il faut quand même se dire que pour que vous puissiez vendre une compétition, on n'a pas besoin de 200 millions. Mais attendez, le championnat de France, c'est 780 millions, 750 millions d'euros. Mais alors, tout le continent, vous dites que ça va rapporter 200 millions. On n'a pas besoin de ça. C'est pas avec 200 millions que vous allez retenir les joueurs si déjà la France ne parvient pas à retenir les siens avec ce...
Mais il faut comparer avec ce donc, qui existe en Afrique, pas avec la France.
Ce qui existe et ce qui doit exister, c'est que tout club et tout championnat doit fonctionner d'abord avec ce qu'on appelle le merchandising et la, la, dans la billetterie. Et cette billetterie, ce ne sera pas avec un club. Ce ne sera pas avec un match. Vous ne pouvez pas faire vivre un football africain en choisissant un club dans un pays. Vous le tuez, vous l'anesthésiez, vous l'amorphisez. Donc, la meilleure des façons, c'est le de développer par la base de telle sorte que cela soit pyramidal. Et d'ailleurs, je suis très content de son intervention tout de suite. Qui voit que vous ne pouvez pas commencer par aller construire un gratte-ciel en mettant juste la toiture. Mais ça commence par les fondations. C'est comme ça la base de la construction d'un bon maçon. Mais... Donc aujourd'hui, j'ai dit, Infantino est venu pour la destruction et il faut qu'il s'arrête, qu'il s'occupe de la FIFA, qu'il laisse un peu, par exemple, non, cette histoire de mondial de club et qu'il donne des possibilités au football africain.
Tu es excessif, comme d'habitude, mais quand tu dis que la FIFA détruit, c'est pas vrai. Le système de rétribution des clubs formateurs sur la, au pourcentage sur les transferts, ça bénéficie à tout le monde, à commencer par les clubs africains aussi. Quand il y a un énorme transfert à 100, 150 millions d'euros, eh bien, le club formateur, il récupère. En France, il y en a plein de petits clubs qui, comme ça, récupèrent beaucoup d'argent. Et quand le gamin, il est originaire d'Afrique, c'est le club en Afrique qui récupère. Donc, la FIFA ne fait pas que détruire. La FIFA utilise sa méthode pour redistribuer aussi vers la base.
La CAN, c'est autre chose. La CAN rapporte beaucoup, mon ami.
Ça, c'était le débat de la semaine dernière. Non, mais, on peut pas dire que la FIFA, on peut pas dire que la FIFA détruit.
Vous détruisez la CAN et vous voulez créer une nouvelle compétition.
La CAN a été détruite en partie par des dirigeants de la CAF qui l'ont élargie à 24, qui l'ont changé des dates sans vraiment mesurer toutes les conséquences. Donc,
on reviendra à ce projet de ligue africaine proposé par Gianni Infantino quand on aura plus de détails, n'est-ce pas? Pour essayer d'enrichir le débat une fois qu'on en saura plus.
Martinelli qui va accélérer devant Hinteregger, le centre, c'était pour Saka, la reprise de Pierre-Emerick Aubameyang, Ishii Kamada, c'est somptueux, l'enchaînement du japonais, et Francfort de nouveau dans la course. Attention, il n'y a personne à la retombée, c'est Kamada qui permet à Francfort de mener à l'Emirates. Ça tourne à la catastrophe pour les Gunners, qui siffle la fin du match. Et la bronca.
Good evening, good afternoon.
Oui, c'est bon.
Football is my passion, my work, but
positive, but above all realistic.
Tu avais la responsabilité de faire la démonstration avec moi que tu avais la raison. Que si tu joues, tu vas jouer bien.
Excuse me, I don't know.
I lost a lot with big teams.
Thank you.
Voilà, du Unai Emery dans le texte, on s'est un peu moqué, mais c'est vrai que cette défaite à domicile a tourné à la déroute, et surtout l'Espagnol Unai Emery a été viré ce matin, alors que son équipe pourtant reste en tête du groupe F, même si elle a été battue par Francfort hier par 2-1. C'est donc cette dernière défaite qui a conduit à l'éviction de Unai Emery, remplacé temporairement par Freddy Ljungberg. Cette dernière défaite était le dernier mauvais résultat en fait de la plus mauvaise série vécue par les Gunners et par le club depuis 1992. 7 matchs sans victoire. Il y a quand même aussi 3 défaites dans ces 7 matchs. Emery était fragilisé depuis plusieurs semaines, Xavier Barré. C'était une issue qu'on attendait à plus ou moins long terme.
En tout cas, José Mourinho l'attendait, puisqu'il avait refusé gentiment l'Olympique Lyonnais pour rester à Londres, en sachant qu'il y aurait à un moment ou à un autre un des deux clubs londoniens du nord de Londres qui tomberait.
Ben,
et finalement, les deux ont viré leur entraîneur à quelques jours d'intervalle. Il y a eu d'abord Tottenham avec Pochettino et maintenant Arsenal avec Unai Emery. Moi, je pense que plus que les résultats, parce qu'ils avaient plutôt fait un bon début de saison, Arsenal, ça marchait bien. Puis là, maintenant, ils ne gagnent plus. Ils perdent peu.
Mais ils ne gagnent plus depuis le 24 octobre.
Exactement.
Mais seulement en Ligue Europa, où les résultats continuaient à être assez bons. Mais par contre, en championnat...
C'est la pire série depuis 92.
Ouais. Hein. Oui, mais effectivement, sans victoire, vous l'avez dit. Victoire. Donc depuis 1992. Mais en début de saison, ils avaient enchaîné plutôt des bons résultats. Et ce qui se passe, je pense, c'est plus le manque de prise de Unai Emery sur son groupe.
Et là,
l'extrait que vous avez passé est très représentatif.
Les extraits,
parce que à Paris, quand il est parti, les joueurs en off, ils disent, mais en fait, le problème d'Unai Emery, c'est qu'on comprenait rien de ce qu'il voulait.
Et c'est-à-dire, il parlait très mal le français,
mais en anglais, c'est pas mieux. Donc il se retrouve avec un vestiaire qui n'arrive pas à le comprendre. Alors qu'en Espagne, il a toujours eu des bons résultats parce que il avait des joueurs qui globalement le comprenaient. Donc là, il se retrouve face à un groupe qui le suit plus. Et on l'a bien vu, il y a eu le clash avec Xhaka, Granit Xhaka, l'international suisse, qui est quand même son meneur de jeu, le dépositaire du jeu, qui finalement se retrouve borduré dans le groupe. Enfin, en tout cas, en conflit avec l'entraîneur. Donc forcément, ça pouvait pas durer.
Alejandro, est-ce que c'est aussi peut-être la suite de Wenger qui est difficile à trouver, parce que finalement les chiffres disent que son bilan est à peu près le même que les derniers matchs, les 50 derniers matchs de Wenger.
Oui, sauf que Wenger était peut-être
que les Gunners souffrent des mêmes mots,
plus lisible quand même, parce que Emery a changé, je crois, 8 fois des systèmes des jeux, donc c'est quand même
9
beaucoup.
Fois de capitaine.
Et surtout on voyait des jeunes comme Martinelli ou d'autres qui effectivement faisaient des belles performances, mais surtout les joueurs clés de l'équipe ne semblaient pas le suivre, ou en tout cas ne semblait pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Je pense à Ozil, je pense à...
Ozil, ça fait longtemps, mais...
Oui, mais à Pepe qui venait
hier,
d'arriver.
Hier, il avait laissé Aubameyang et Lacazette sur le banc en plus.
Exactement, oui.
Rémi, alors on sait tous que vous n'aimiez pas beaucoup Arsène Wenger, mais est-ce que vous trouviez que Unai Emery, finalement, c'était pas mieux avec les Gunners?
Il était mieux.
Il va quand même pas dire tout et son contraire en un an.
Mais je ne peux pas dire, mais parce que tout de suite là, les gens m'ont dit.
Mais est-ce que c'est pas un club trop grand pour lui
Attendez. Tout de suite, je vais d'abord rectifier un certain nombre de choses, parce que les journalistes se basent sur une statistique. Depuis 92, on n'a pas eu une telle statistique. Mais ils oublient que quand Arsène Wenger part. Bien évidemment, Arsenal réussit la pire série de son histoire, c'est-à-dire que 34 ans, on n'avait pas vu une équipe battre. La même équipe battre
donc,
Arsenal.
Vous n'aimez pas
fois.
Les statistiques, mais attendez, c'est vous qui les
données. Mais c'est ce qu'il faut d'abord remettre, c'est-à-dire 34 ans, c'est-à-dire que Pep Guardiola est venu, 3-0, ensuite encore 3-0, encore la même saison, 3-0, 9 buts en une saison. Et c'était avec Arsène Wenger. Quelque temps après, c'était Brighton, c'est-à-dire qu'une équipe qui venait de deuxième division. Xavier Barré était ici, il était en train d'accuser les joueurs, alors que ça faisait 34 ans que Arsenal n'avait jamais connu ça. Aujourd'hui, vous me parlez d'une équipe quand même qui a été détruite, comme je le dis souvent. Le problème de la longévité au pouvoir, ça détruit, que ce soit en football, tout comme en politique. Je l'ai toujours dit. Regardez ce qui s'est passé à Manchester United. C'est la même chose. C'est ce qui se passe avec nos dirigeants africains. Ils restent, ils bloquent et puis, vous savez très bien comment est-ce que se passe.
Unai Emery, il n'est pas resté longtemps. 18 mois.
Non, mais parce que justement, celui qui reste longtemps, la formule est là. Après moi, le déluge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est arrivé.
Après
il
Mourinho, le déluge, parfois.
Ce n'est pas du tout bien
parce que aujourd'hui, comme vous le dites, son équipe est première. Déjà en Ligue Europa. L'année dernière, il a joué la finale de la Ligue Europa.
C'est sa spécialité. Il a gagné 3 fois déjà.
Mais il a quand même atteint la finale. L'année dernière, quand même, il faut savoir que, à part un moment, il était quand même à 26 points. C'est-à-dire qu'il avait le même nombre de points que Barça, qui lui, il était.
Oui, mais ils ont terminé 5e. Ils n'ont encore pas disputé la Ligue des Champions.
Il est 8e. Je dis bien que, Arsène Wenger étant 12e, Xavier Barré est en train d'applaudir. Étant 14e, Xavier Barré est en train d'applaudir. Et lui, maintenant, Unai Emery, étant 8e et premier en Ligue Europa.
C'est
la catastrophe. J'ai dit, c'est pas bien de le limoger, parce que ce gars, et d'ailleurs, hier, il savait très bien que, quel que soit le cas, il était toujours en tête de poule. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire jouer, que ce soit Lacazette, que ce soit Pepe, ou encore même... c'est comme ça.
Qui pour le remplacer? Qui peut-on entendre? On promet un grand nom sur le banc d'Arsenal. Effectivement, c'est peut-être ce qu'attendent les supporters qui sont toujours en ce moment contre leurs entraîneurs.
On est toujours en train de rêver. Moi, je pense qu'à l'époque où Emery est arrivé, on parlait beaucoup de Mikel Arteta, qui semblait... qui semblait fait pour ce poste, en tout cas qui connaît parfaitement le club, je pense que ça pourrait être effectivement une bonne solution.
Le problème aujourd'hui, c'est que c'est difficile de savoir qui a vraiment le pouvoir à Arsenal aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pendant 22 ans, ça a été Wenger le patron. Et déjà, ces deux dernières saisons, surtout sa dernière saison, ils ont fait venir d'autres gens. Raúl Sagnelli, qui est un ancien recruteur chief scout de Barcelone, et comme directeur sportif. Et ils ont fait venir un chief scout de Dortmund, Sven Mislinta, qui d'ailleurs a fait venir beaucoup d'Allemands de joueurs de la Bundesliga. Sokratis en défense, CA de Kolasinac, le défenseur bosnien. Donc il y a eu effectivement ces recrutements un peu hétéroclites. Du temps de Wenger, c'était simple, il prenait pratiquement que des Français ou des francophones. Jimmy n'y est pas allé, mais tu as connu beaucoup de joueurs qui sont partis jouer à Arsenal, Pires, Viltor, Kaba Diawara, enfin il y en a eu plein. Donc il avait un filon Wenger français francophone.
Il a recruté Nicolas Pépé,
voilà,
qui pour l'instant est pas qui à la hauteur pas des attentes.
Mais bon, du coup cet effectif est très hétéroclite, avec beaucoup d'influence, et surtout dans les bureaux, j'allais dire dans les coulisses, beaucoup de gens qui ont influencé ces derniers mois, et pas toujours de la bonne manière. Donc il faut rappeler que le directeur du club est également parti, donc il y a beaucoup d'incertitudes, et aujourd'hui l'actionnaire principal, Kroenke, qui est un Américain, eh bien jusqu'à présent il faisait toujours confiance à Wenger, il s'appuyait toujours sur Wenger, et aujourd'hui il ne sait plus trop sur qui s'appuyer, donc c'est difficile de voir la lisibilité du pouvoir aujourd'hui chez les Gunners.
Eh bien, pareil, on suivra ça et on verra du coup qui risque de se retrouver sur ce banc pour voir ce mauvais... si, en tout cas, un entraîneur peut redresser un peu la barre pour cette équipe qui est pour l'instant, Rémi le disait, huitième, mais surtout qui est à un certain nombre de points seulement de la quatrième place qui signifie Ligue des Champions.
Ils sont à 10 points, je crois, oui.
Oui, ils sont assez loin. C'est en première ligue qu'on leur demande des résultats.
Absolument, on est côtière du championnat. Donc il y a encore un peu de temps.
Ouais. En tout cas, on verra qui pour lui succéder. On va s'arrêter quelques instants parce que nous sommes à J-3. Un jour très important. On va s'arrêter et vous demander votre avis sur le Ballon d'Or. Alejandro Valente, France Football, hein, nos amis de France Football distribueront enfin lundi le Ballon d'Or. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de favoris, une longue liste.
C'est la règle du jeu.
Est-ce que nos auditeurs seront déçus?
En tout cas, si j'en crois à tous ceux qui m'écrivent...
Alors déçus parce que, évidemment, beaucoup rêvent de voir enfin un joueur africain succéder à Georges Weah.
Il y a beaucoup qui nous écrivent sur Facebook Live, en direct, donc sur la page Facebook, qui effectivement s'attendent à voir Sadio Mané. D'autres se demandent si les rumeurs qui annoncent une victoire de Lionel Messi, la sixième, sont vraies. Certains se posent des questions aussi sur Cristiano Ronaldo. Effectivement, chacun a son avis et je pense qu'on ne saura la vérité que lundi,
lundi soir,
vers 21h30 temps universel, en direct sur
Radio Foot International, dans une deuxième édition. Jimmy, vous connaissez à peu près les grands noms qui circulent autour de ce Ballon d'Or. Pour vous, si vous aviez une baguette magique, à qui le donneriez-vous?
Sadio Mané. Sadio Mané.
Vous êtes comme Ali Bey, qui le défend.
Je le défends aussi.
Si fort hier encore dans l'émission.
Je le défends aussi, même si j'ai beaucoup de respect pour les autres. Mais ce que fait Sadio Mané actuellement, c'est assez exceptionnel. Et
c'est quoi sa régularité?
Sa régularité, il est décisif. Pour la CAN, il a pas fait une très grande CAN. C'est ce qui pourrait peut-être le desservir. Mais son équipe a été en finale, finaliste de la CAN. Dans le championnat, il est décisif. Il a quand même gagné la Ligue des Champions. Il marque des buts qui permettent à son équipe de gagner. Donc pour moi, aussi parce qu'il est africain.
Rémi, est-ce que vous pensez que lundi, ça sera enfin l'heure de rompre le duo qui, depuis si longtemps, alterne en récompense du Ballon d'Or? L'année dernière, il y avait eu Modric, mais on a l'impression qu'il s'était faufilé.
Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a deux clubs qui ont des capacités de publicité hors normes, à savoir le Real et le Barça.
Faire campagne pour leurs joueurs.
Si Cristiano Ronaldo restait au Real, il aurait eu aisément le Ballon d'Or, puisque toutes les statistiques disaient qu'il était le favori. Mais dès qu'il est parti, on a trouvé moyen de nous vanter Modric. Donc aujourd'hui,
j'ai dit,
le meilleur joueur de toute cette année a été incontestablement, incomparablement, inévitablement, Sadio Mané.
D'accord.
Sadio Mané. D'accord. Mais le problème est quoi? Le problème, même comme mon frère en train de parler de la CAN, il a fait une bonne CAN dans la mesure où il est deuxième meilleur buteur. Il a conduit son pays.
Il est finaliste.
Il est co-meilleur buteur de la Première Ligue, sans tirer un pénalty. C'est incroyable, c'est hallucinant. Qu'il ne soit pas là, c'est hallucinant.
Mais c'est la démocratie.
Ce que je veux dire, moi, par rapport à la CAN, c'est qu'on l'attendait encore plus haut. Et je pense qu'on l'attendait...
Georges Weah n'a pas joué la CAN. Georges Weah n'a rien fait.
Je vous dis,
dans les statistiques de Georges Weah, lorsque vous les prenez, sont moitié. Oui, mais attendez, il n'y aura plus.
Effectivement, c'était une époque où il y avait 45 votants pour le Ballon d'Or. Oui. Aujourd'hui, on en est à 200, on ne sait pas exactement combien. C'est le problème aujourd'hui du jury de France Football, c'est qu'il est constitué par des journalistes de tous les pays du monde. Bon, bah, c'est très bien, mais dans quelle mesure le journaliste qui vote aux îles Salomon ou à Saint-Kitts et Nevis est aussi bien informé que nous en Europe ou même que dans d'autres grands pays développés où on a des chaînes de télé qui nous transmettre tous les matchs. Est-ce qu'ils voient tous les matchs? Est-ce qu'ils peuvent juger
ou se polariser sur
voilà, donc moi, c'est ça, on verra. On épluchera les votes lundi quand ils sortiront, ou mardi dans France Football. On verra qui a voté, parce qu'il faut rappeler une seule chose à nos auditeurs et à nos internautes, c'est que c'est pas France Football qui vote. C'est un journaliste de chaque pays.
On l'a largement expliqué dans Radio Foot International depuis des années, faites-moi confiance, Xavier Barré. Allez, tout de suite, les cartons.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Rémi, 30 secondes, le carton de la semaine.
Le carton, je vais le donner à Antu Tajara, qui bien évidemment a été élu par l'IFFHS, qui est une structure qui est quand même importante et qui est reconnue comme la meilleure joueuse africaine et 15e au monde. Donc j'ai dit bravo à cette Camerounaise, dont le deuxième but
Elle était assise pratiquement à votre siège en début de semaine dans Radio Foot International. Voilà. Xavier Barré.
Oui, moi, juste un carton vert très vite à Mounir Chouillard, le joueur de Dijon. On parle souvent des mauvaises habitudes des joueurs de football. Eh bien là, il sortait à Dijon après le match le week-end dernier. Sur la route, il voit une personne en panne. Avec ses copains, ils ont poussé la voiture sur le bord de la route et ils l'ont ramené chez elle à 15 km. Avant d'aller faire la fête. Donc, quand il y a des footballeurs professionnels qui ont des comportements
comme
ça,
d'accident.
Eh bien, on peut leur donner un carton.
Alejandro.
Carton vert sous forme d'anniversaire, quoi. 80 ans pour le TP Mazembe et 120 ans pour un autre club très populaire parmi nos auditeurs. C'est aujourd'hui. C'est le Barça, bien sûr.
Un carton rouge de Radio Foot International aux supporters de Malmö en Suède. Qui s'en sont pris? Eh bien, on peut dire qu'ils ont zlatané la statue de Zlatan. Elle fait pourtant 2m07, elle pèse 500 kilos. Mais voilà que Zlatan Ibrahimovic, qui avait inauguré lui-même cette statue le 8 octobre dernier, à sa gloire, à Malmö, eh bien, a décidé d'investir son argent dans le club rival, ennemi, de Hammarby. C'est à Stockholm. Et du coup, ça a déclenché l'ire des supporters qui même font une pétition, ils demandent la fin de cette statue que vous pouvez voir donc sur le site de RFI, le Facebook Live. On a mis la photo, elle est avec un sac en plastique bleu sur le visage. On ne voit que les biceps et les tablettes de chocolat de Zlatan Ibrahimovic. C'est la fin de ce Radio Foot International. Vous avez déjà mis un carton rouge en début d'émission, Djibril Diallo et Jimmy Adjovi Boko. Merci beaucoup d'être venu dans Radio Foot. Expliquer ce projet, cette campagne.
Beaucoup.
On en parlera sur le site de notre émission. Et donc, vous êtes invité cordialement à revenir dans Radio Foot pour
avec
en
plaisir.
Parler.
Merci.
Quand vous aurez un projet, des projets, une pléthore de projets concrets pour lutter contre la violence faite aux femmes. Merci à Alice Ménard, merci à Pierre Guérin, merci aussi à Marie-Amélie Motte et puis Swell Kedir et Laure Tamperville qui vous aident à nous suivre en Facebook Live. Merci beaucoup, bon week-end à tous. Le coq.